enfants. On le respire comme l'air d'une forêt au sortir de nos villes empestées. Tout cela dit, nous savons que François était d'une rigueur épouvantable quand il s'agissait de la chair. Son horreur des fautes sexuelles serait de nos jours qualifiée de morbide. Elle est si révélatrice qu'elle mérite qu'on s'y arrête. Une brève anecdote nous donne le ton. Un frère, ignorant la défense de se rendre dans un couvent de femmes, alla sur l'ordre d'un ministre chez les pauvres dames pour leur venir en aide. Il s'appelait Étienne. Un jour de décembre, qu'il cheminait avec François le long du Tibre, il lui avoua ce manquement à la règle. Peut-être ne prévoyait-il pas l'orage qui devait éclater sur sa tête. Rudoyé sans merci en paroles, le frère trop zélé reçut l'ordre de se plonger dans le fleuve, ce qu'il fit sur le champ. À la place de François ? Sorti de l'eau glaciale, il grelottait de froid, et ce fut ainsi qu'il regagna avec François l'ermitage à 2 kilomètres de là. Mais il avait appris une fois pour toutes que la fréquentation des femmes est un miel empoisonné, et que de leur parler sans être contaminé était aussi facile que de marcher dans le feu sans se brûler les pieds. On aurait cru, remarque Celano, à la peur ou à la répulsion plutôt qu'à la prudence. Car François, tout saint qu'il était, s'écartait des femmes et ne répondait que par monosyllabes à leur babil. Elles obtenaient rarement de lui le plus fugitif coup d'œil. Il confia un jour à un frère que si jamais il lui arrivait de les regarder, il n'en reconnaîtrait que 2. On s'était forcé de deviner qui ces 2-là pouvaient être. Dame Pica, sans doute, parce qu'on n'oublie pas le visage de sa mère. Et la seconde ? Pas d'hésitation possible. Le visage de Claire, la dame des pensées du chevalier fidèle, celle qui était devenue pour lui dame pauvreté, envoyée par le Christ. Et comme le monde est plein de gens curieux, on en a trouvé une troisième, singulière celle-là. Frère Jacqueline, qui viendra dans ce livre plus tard. La terreur de l'élan charnel chez François faisait de l'amour une passion voisine de l'angélisme. Ce qu'il condamnait parfois brutalement chez autrui, il veillait à l'anéantir en lui-même par toutes les mortifications. « Ne faites pas de moi trop vite un saint. Je suis parfaitement capable de faire un enfant. » Est-il nécessaire de remarquer en passant que ce n'est pas là la parole d'un homme vierge, mais bien d'un être de chair qui a connu le plaisir, et c'est bien ce dont il parle. Cependant, sœur Claire exprimait souvent le désir de prendre un repas avec lui, vœu fort innocent dont elle ne soupçonnait pas les difficultés qu'il entraînait. François refusait fermement de lui accorder cette faveur. Que craignait-il donc ? De tomber amoureux dans le sens ordinaire où on l'entend ? Néanmoins, personne n'entendait rien à son attitude envers la sainte religieuse dont il avait jadis coupé la belle chevelure. Et les frères insistaient pour qu'il cédât, et finalement ce fut oui. Le repas eut lieu à la Portioncule, en souvenir de la prise d'habit. Claire vint avec une compagne. Tous les frères étaient présents et la table préparée à même le sol. Les convives venaient à peine de s'asseoir que François se mit à parler de Dieu. Il n'en fallait pas plus pour que tous fussent ravis en extase. Grand fut l'effroi des gens qui passaient par là en voyant flamber et les bois et la Portioncule. Les assisiates aperçurent de leurs murailles les lueurs d'un incendie et accoururent pour éteindre le brasier. Mais arrivés aux portes du couvent, ils comprirent que ce feu qui ne consumait rien était une manifestation de la présence divine, incendiant les cœurs. Le chapitre des nattes. On lui a donné le nom de chapitre des nattes, mais tous les chapitres depuis celui de la première Pentecôte